d'ascendité,
deux semestres.
Et il y a quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus, Père Eiffels m'a proposé d'intervenir, et puis j'ai été contacté par un de vous pour intervenir ce soir. Et je n'avais pas du tout prévu, nous n'avions pas prévu que cette conférence sur le prêtre aurait lieu deux jours après la remise d'un rapport douloureux sur les scandaleuses fautes de quelques prêtres, mais qui ternissent de manière si sale, si grave le corps de l'Église aujourd'hui. Alors, du coup, le contexte est particulier pour vous parler du prêtre. Je pourrais commencer en repartant justement de ce rapport. Peut-être vous aurez des questions tout à l'heure, ou peut-être j'en parlerai au cours de l'exposé. Mais je préfère prendre de la hauteur, de la profondeur, de la largeur. Et puis repartir plutôt, de ma joie d'être prêtre. Parce que en fait, il y a quand même 98% des prêtres qui sont heureux d'être prêtres et qui vont bien. Enfin, en gros, c'est ça, quoi. Donc, de la joie d'être prêtre, pourquoi ? Pas parce que cela me donnerait ou nous donnerait une stature ou un privilège dans l'Église ou dans le monde, parce qu'aujourd'hui, c'est pas tellement... C'est même pas très visible, très notable, c'est le cas de le dire. Mais plutôt parce que chaque jour dans ma vie de prêtre, je suis témoin de l'action de Dieu. Et au fond, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux quand on est croyant, quand on est chrétien, quand on est catholique, que de voir Dieu à l'œuvre ? Non seulement de voir les œuvres de Dieu, mais de voir Dieu à l'œuvre. Et déjà voir les œuvres de Dieu, reconnaître dans la création, dans la grâce, dans la foi, des dons de Dieu, c'est déjà merveilleux. Mais voir Dieu à l'œuvre, en train de donner la foi à quelqu'un, en train de se donner lui-même dans le pardon, dans l'Eucharistie, en train de se livrer, c'est le cas de le dire aussi, dans sa parole qui est proclamée, expliquée. Et là, ça, dans la vie du prêtre, c'est quotidien. J'ai été ordonné en juin 92, prêtre. Et donc, ça fait bientôt 30 ans. Ouais. Et pas une seule fois, pas un seul jour, je n'ai regretté, bien sûr, de m'être prosterné devant Dieu, d'abord, hein, et puis devant le point de vue liturgique, devant l'évêque, et devant le peuple chrétien qui est derrière. Pour recevoir de Dieu cette grâce immense, cette grâce inouïe, à proprement parler, qui aurait pu imaginer quelqu'un qui invente une religion. Est-ce qu'il va inventer, d'abord que Dieu se fait homme, et ensuite qu'il y a des pauvres types, qui sont chargés de tenir sa place, enfin de représenter le Fils de Dieu fait homme. De le représenter pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, pas meilleurs que vous, mais de le représenter parce qu'ils rendent présent l'action même du Fils de Dieu dans le monde. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit récemment encore aux séminaristes, quand on est à la sacristie et qu'on se prépare à célébrer la messe, si on n'est pas au moins régulièrement saisi de vertige, c'est qu'il faut peut-être aller faire une bonne retraite, quoi. Parce que c'est normal, parce que c'est de vertige, c'est absolument fou comme réalité. Et je dis réalité volontairement, parce que vous savez que dans les sacrements, il y a une réalité qui en fait est le cœur même du sacrement. Il y a bien sûr la matière, le pain, le vin, mais la réalité vraie, c'est le corps et le sang du Christ. Et ça, c'est comme le pardon. Je te pardonne tous tes péchés. Je vous avoue que quelquefois, quand je donne le pardon des péchés, j'en pleure au moins intérieurement, parfois extérieurement, parce que je me dis, mais tu te rends compte, enfin, de ce que tu as dit, de ce que tu as fait. Et c'est Dieu qu'il l'a dit par ta bouche. Quoi. Je te pardonne. Moi, je ne peux pas pardonner les péchés si je ne suis qu'un homme. Et donc, il y a cette... Et dans la liturgie française, enfin, francophone, en plus, enfin, on a corrigé un tout petit peu l'ordre des mots du latin, mais... parce que le latin dit... je te pardonne tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et dans le français, on a « Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tes péchés. » Moi, j'ai toujours trouvé ça très, très bien trouvé qu'entre « moi » et « je », il y a « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Pour moi, c'est assez symbolique de la... Donc, nous agissons au nom du Christ même. Pas quand je vais au cinéma ou sur la plage ou que je dis qu'il va faire beau demain. Là, je parle pas au nom du Christ. Mais... et encore moins, évidemment, si je fais des bêtises ou des péchés. Mais quand je suis là pour, en communion avec l'Église, très important, en communion avec l'Église, donc avec le pape, les évêques, l'évêque, et puis les évêques entre eux, et puis, voilà, en communion avec l'Église, quand j'agis au nom du Christ, selon le ministère reçu, c'est vraiment Dieu qui agit. Alors ça, on le voit dans l'Évangile, hein, je n'invente rien, évidemment, et l'Église n'invente rien, Matthieu 10, 40, par exemple, « Qui vous accueille, m'accueille. » Jésus a fait tout un discours aux apôtres pour leur expliquer le sens et le contenu de leur mission. Puis à la fin, il dit « Qui vous accueille, m'accueille. » Et « Qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » Donc, c'est ça, d'abord, le sacerdoce. Hein, c'est cette configuration, si vous voulez, configuration de l'homme choisi pour être prêtre. Configuration au Christ pasteur, au Christ qui donne sa vie, au Christ qui pardonne. Quand on dit configuration, et là je peux faire une toute petite allusion à ce qui se passe en ce moment, ça ne veut pas dire que le prêtre tout d'un coup est supérieur à tout le monde en grâce et en sainteté. Malheureusement, parce qu'il y est appelé quand même à être plus saint le plus possible. Et l'appel à être saint quand on est prêtre, il est plus fort encore que quand on est simplement baptisé, confirmé. Mais le sacerdoce, même si on est configuré au Christ prêtre, au Christ pasteur, au Christ qui livre sa vie, qui donne sa parole avec autorité, qui pardonne, etc. En fait, le baptême et la confirmation nous ont déjà configurés au Christ, comme membres de son corps. Et le terme configuration ne doit pas nous faire penser que le prêtre, du coup, est détaché et est situé tellement en Dieu qu'il ne pourrait plus faire de péché, par exemple. Malheureusement, nous sommes des pauvres pécheurs, tous. Enfin, vous, je ne sais pas. Enfin, si, je me suppose. Moi, en tout cas, je sais que je suis un pauvre pécheur. Pardonné et pardonnant, mais ce sont des grandes grâces. Mais pauvre pécheur. Et d'ailleurs, quand le Christ choisit ses apôtres, il ne demande pas à la Vierge Marie d'être prêtre. Il demande à des. Il aurait pu choisir la seule créature qui est la seule personne humaine, la seule créature humaine qui est sans péché. Mais non, il choisit 12 hommes, des pauvres types, et même parmi les 12, il y en a qui est particulièrement pauvre type. Il va mal terminer, évidemment, mais ça c'est un mystère quand même. Et c'est pour nous prêtres, ça reste non pas on n'a pas à avoir peur ou avoir à craindre sans cesse d'être Judas, mais il faut reconnaître que c'est une réalité qui est présente dès l'origine. Hein. C'est mystère. Et il y a un autre passage qui pour moi est très, très révélateur du mystère apostolique, c'est Marc 3. Marc 3, 14, je crois, et donc je vais le retrouver tout de suite. Jésus gravit la montagne. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes allé en Terre Sainte, mais en tout cas, la montagne dont il est question, c'est quand même une petite colline un peu minable, du point de vue de l'altitude. Mais s'il monte sur la montagne, c'est quand même pour rappeler ce point de contact entre la terre et Dieu que symbolise toute montagne, mais plus encore le Sinaï et le don de la loi et Moïse et la rencontre véritable entre Dieu et son peuple qu'il vient de sauver. En tout cas, Jésus monte sur la montagne, et on parle aussi d'ailleurs dans ce même chapitre de la mer. La mer, le lac de Tibériade, c'est la taille du lac d'Annecy, hein, c'est appeler ça une mer, franchement. Hein. Mais évidemment, là aussi, ça a du sens pour nous faire penser, faire repenser à la mer Rouge. Et Jésus vient là comme plus qu'un nouveau Moïse, comme le médiateur unique, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, pour prier son Père. Et le matin, là dans le récit, c'est pas le matin, c'est la suite du récit, mais dans une autre partie, c'est après avoir prié toute la nuit. Puis il gravit la montagne et il appelle à lui ceux qu'il voulait. Pour l'instant, c'est très indécis, indécis. Si, c'est décis, puisqu'il veut, donc c'est justement une décision. Mais c'est très incomplet comme description. Il appelle à lui ceux qu'il voulait. Il y a une volonté de Jésus d'appeler ceux qui vont être ses ministres. Et il en institua 12, epoiesen en grec, il les fit. C'est le même mot, je crois, dans la Septante, qui désigne le fait que Dieu créa le ciel et la terre. Quasiment, il les crée. Il crée les 12. Vous voyez ? Alors, il ne les crée pas parce qu'il... Ils sont pas, ils viennent pas comme avec Merlin l'Enchanteur, comme ça. Mais il les crée au sens où il leur donne une mission qui marque leur être, hein, qui est inscrite dans leur être nouveau, en quelque sorte. Il les crée 12. Pourquoi ? Donc 12, comme par hasard aussi, 12, évidemment. Petite anecdote. Il y a eu 12 ordinations de prêtres à Paris en juin dernier. C'était quand même beau qu'il y en ait 12. Ça tombait comme ça, hein, c'est pas fait exprès. Et je suis allé célébrer la messe à la prison de la santé, comme je fais de temps en temps, 3-4 fois dans l'année. On se succède à plusieurs prêtres. Et à la prison de la santé, il y a quand même il y a beaucoup de détenus, mais il y a 50 détenus quand même à la messe ce dimanche, et d'âge très différent, de conditions sociales très très diverses aussi, et la plupart parlent français, en tout cas un peu, au moins, Et je parle, je leur confie comme intention de prière. Je leur dis, je vous demande de prier pour les 12 qui vont être ordonnés prêtres en juin prochain. À ce moment-là, il y a un jeune au fond qui a pris cher. D'ailleurs, je crois qu'il a fait quelque chose de très grave. Donc il est pour plusieurs années vraiment en prison, sûrement. Et à ce moment-là, il se lève. Et en plus, ils sont 12. C'est pas banal quand même. Donc voilà, les 12. Hein, les 12 comme les 12 tribus d'Israël, comme les 12 apôtres, ils sont créés 12. Pourquoi ? Pour être ses compagnons, pour être avec lui, pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les démons. Donc, être avec lui, aller prêcher en son nom et agir au point de chasser les démons. Donc, une puissance qui s'exerce, pas seulement un discours. On n'est pas l'Église, c'est pas une société, c'est pas une loge franc-maçonne, c'est pas une association de pensée, il faudrait prendre plein d'autres comparaisons, c'est le corps du Christ, qui est présent dans le monde avec tous ses membres et avec ses 12 qui sont choisis, qui sont ensuite nommés. Il institua donc les 12, redit saint Marc, et il donna à Simon le nom de Pierre, puis Jacques, le fils de Zébédée, etc. Le dernier passage que je voulais évoquer devant vous, dans les évangiles, on pourrait en prendre une quarantaine, hein, de passages dans le Nouveau Testament pour évoquer le sacerdoce. Il y a toute l'Épître aux Hébreux notamment, mais vous demanderez à Père Orfès, il sera mieux que moi de vous l'expliquer. Jean 20, le chapitre 20 de l'évangile de saint Jean. Quand Jésus ressuscité apparaît à ses disciples et que il souffle sur eux. C'est pas tout à fait la Pentecôte, enfin les exégètes évidemment se disputent là-dessus, mais la Pentecôte elle est racontée dans les Actes au 50e jour après la résurrection. Là on est juste après le jour de la résurrection, le soir, ce même jour, le premier de la semaine, les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu et il leur dit « Paix à vous ». C'est pour ça que l'évêque, quand il préside une messe, il commence la messe en disant « La paix soit avec vous ». Ça vient de là, en fait. Hein. C'est le salut du Christ ressuscité, ses apôtres. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau « Paix à vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il y a plusieurs fois l'expression comme dans le Nouveau Testament. Et ici, évidemment, avec une force particulière, c'est pas un comme simplement d'une lointaine analogie avec une comparaison de rapport plus ou moins proche, quoi. C'est vraiment le même acte qui continue, en fait. Il faut voir ça comme ça. Le Père a envoyé le Fils envoie les apôtres. C'est le même dessein de salut de Dieu qui descend sur la terre et qui trace son sillon au milieu de nous, au milieu de notre histoire. C'est la même réalité. Et il veut cela dès l'origine. Il le construit, il le crée, il le donne. Il, c'est Dieu le Père, enfin Dieu lui-même. Et là, Jésus. Et Jésus, donc, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Hein, et le terme « envoyé » est repris plusieurs fois dans le Nouveau Testament dans des circonstances très fortes comme ça, d'un envoi en mission. Hein, c'est pas simplement « j'envoie une feuille morte » comme ça. C'est un envoi d'une personne qui va représenter celui qui l'envoie. Vous voyez ? C'est ça qui est très fort dans l'Évangile et dans la tradition chrétienne et catholique, c'est que celui qui est ordonné, il est porteur non seulement du message, hein, on parle parfois de qu'est-ce que l'Église a comme message à transmettre, mais c'est pas seulement un message, c'est une réalité. Donc celui qui est ordonné, il porte en lui celui qu'il l'envoie. Celui qui est envoyé, il porte en lui celui qui l'envoie. Il est représentant. Il le représente. Il le donne de nouveau au présent. Il est son plénipotentiaire. Il a toute la puissance pleine et entière de celui qui l'envoie. Vous voyez, c'est pas seulement un messager ou enfin, ça l'est aussi, mais c'est pas simplement un représentant au sens où je viens vendre ma camelote, quoi. C'est vraiment quelqu'un. En disant ça, je tremble, hein, parce que en fait, je parle du prêtre. Donc, mais c'est vrai, il faut l'accepter. Et quand on se réveille le matin, on dit je suis prêtre. Ben oui, je suis prêtre. Après, encore une fois, on est aussi pécheurs que vous. On est tous des. Voilà, je redis, hein, parce que c'est important. Il ne faut pas nous mettre sur un piédestal au sens où le prêtre serait indemne de toute tentation, par exemple. Hein, évidemment, on est tenté comme tout le monde. Mais voilà, ce plénipotentiaire qui est le prêtre, et Jésus le confirme juste après en disant, ayant dit cela, il souffla. Là aussi, hein, il les fit 12, et là, il souffle. Il souffle sur les apôtres qui, tout d'un coup, vont avoir un pouvoir exorbitant. Rappelez-vous la création d'Adam, en tout cas un des récits de la création où il y a de la glaise, et Dieu souffle hein, sur la glaise et ça devient un être vivant, une personne. Et donc là, il souffle sur les apôtres, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ils leur seront remis, on traduit souvent, et c'est aussi dans le texte grec, un passif. Très souvent, ça signifie dans le codage, enfin le langage biblique, que l'agent, c'est Dieu. Donc c'est, ils sont remis par Dieu, les péchés. Toujours par Dieu. Et Dieu seul peut remettre les péchés. Mais quand vous remettrez les péchés, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. De même, on a ça évidemment dans les paroles de la consécration ou de la Sainte Cène au départ. Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. Et vous savez bien que le mot mémoire ici ne désigne pas le souvenir du passé à la Proust ou à la Rousseau ou à la, je sais pas quoi, ou la Martine. Mais c'est la réalité elle-même qui est rendue présente. La réalité du passé qui est sous une apparence autre, sous une réalité, enfin une matière, une autre, mais qui est réellement présent. Nous sommes à la messe réellement présents au sacrifice du Christ sur la croix. Réellement. Donc faites ceci en mémoire de moi, ça il le dit aux 12 aussi, aux apôtres, et à travers eux à toute l'Église, hein, parce qu'on est tous d'une certaine manière sujets de la célébration de la messe. Je dis ça, peut-être ça va choquer certains d'entre vous, mais c'est le prêtre qui préside la messe, qui célèbre la messe. Mais le sujet de la célébration de l'Eucharistie, du sacrifice eucharistique, c'est toute l'Église, en fait. C'est l'Église qui parle aussi, qui s'offre au Père, et qui par le Fils dans l'Esprit. Il me reste combien de temps? 20 minutes? Oh, un quart d'heure? Alors, je voulais aborder avec vous quand même certains... Bon, j'ai fait des... C'est pas un texte que j'ai écrit moi-même, c'est du Concile... Pardon, j'en garde un, voilà. Du Concile Vatican II. On ne va pas tout lire, parce que ça serait fastidieux, et puis vous pourrez le faire tout seul, tranquillement. Mais il y a un texte de Vatican II qui parle de la vie des prêtres. Le texte, comme tout texte du magistère, est intitulé avec les premiers mots latins du texte. Donc, Presbyterorum Ordinis, de l'ordre des prêtres. On en a parlé dans ce texte. Je ne sais plus quel est le début du texte. Mais... Et donc, il est question ici de la vocation des prêtres à la perfection, à la sainteté. Et évidemment, ces jours... Ça résonne d'une manière très particulière, vous allez voir. Donc, Concile Vatican II, tout le monde connaît, 1962-1965. Concile égale réunion de tous les évêques du monde, sous l'appel du souverain pontife. Avec même, pour le Concile Vatican II, des observateurs non catholiques qui étaient là aussi. Mais en tout cas, le travail, lui, les décisions sont confiées, bien sûr, aux évêques catholiques et au pape, qui ensuite conclut le concile. Donc c'est un texte du magistère qui a une particulière importance et un poids très, très important. Alors je voudrais juste souligner quelques points de ce texte. Qui nous disent un peu qui sont les prêtres. Hein. Les prêtres sont ministres du Christ tête, donc ministres. Ministre, serviteur, on est d'abord ordonné diacre, on est ordonné prêtre et certains évêques. Donc l'ordination commence avec ce don de Dieu qui est de faire de quelqu'un un serviteur, un diacre, un serviteur de l'Évangile, un serviteur de la liturgie, donc de l'offrande du peuple chrétien qui répond à son Père par le Fils, hein, et un serviteur de la charité, qui est toujours au-dessus de tout, qui résume tout, qui résume toute la loi, etc. Donc les prêtres sont ministres du Christ tête pour construire et édifier son corps tout entier, l'Église. Le corps, la tête. Donc, le ministre représentant de la tête qui... Alors là aussi, il faut sans doute, à notre époque... où on parle beaucoup de synodalité, de marcher ensemble avec les laïcs, etc. Et c'est très bien. Il faut se rappeler simplement que le corps est lié, que la tête est liée à tout le corps. Donc, qu'elle ne peut pas vivre toute seule et que les membres non plus ne peuvent pas vivre sans la tête. Ça, c'est déjà une réalité. Et ensuite, que la tête, elle a une fonction particulière, même si, vous savez, je crois que c'est plutôt l'Occident et la modernité qui situent le centre de l'être plutôt ici. Parce que pour les anciens, c'est plutôt là. Mais bon, ça dépend peut-être des anciens. En tout cas, dans le judaïsme, c'est plutôt...
Même chez les Romains.
En tout cas, cette image du corps et de la tête, elle est très importante chez saint Paul, et il faut la conserver, bien sûr, et y être fidèle. Alors, ils sont coopérateurs, je ne vais pas citer tout le texte, mais ils sont coopérateurs de l'ordre épiscopal. Quand on est prêtre, on est coopérateur de l'ordre épiscopal. C'est-à-dire que on n'est pas simplement obéissant à son évêque, ça, oui, on est coopérateur de son évêque dans l'obéissance, qui lui-même est en communion avec les autres évêques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas extraire, on n'est pas... Il y a peut-être des orthodoxes parmi vous, je ne sais pas. Oui. Mais en tout cas, dans notre tradition catholique, on insiste sur la communion de tous les évêques entre eux. Mais vous aussi, hein, en fait, mais d'une autre manière. Alors, la consécration baptiste... Donc il est rappelé ensuite que nous sommes des baptisés, donc à ce titre-là nous devons tendre vers la sainteté. Mais, voyez, ligne 5, mais cette perfection, les prêtres sont tenus de l'acquérir à un titre particulier. En recevant l'ordre, ils ont été consacrés à Dieu d'une manière nouvelle pour être les instruments vivants du Christ, prêtre éternel. Le mot « instrument », il ne faut pas le prendre d'une manière totalement passive, hein, parce que c'est évidemment comme... On reste des personnes humaines, on n'est pas des robots. Instrument veut dire aussi instrument intelligent. C'est-à-dire, d'ailleurs aujourd'hui, je ne sais pas si on parle même parfois d'instrument intelligent, en tout cas, nous, en tant que prêtres, nous sommes appelés à nous mettre au service de l'action du Christ, de l'action que veut accomplir le Christ. Le deuxième paragraphe, je passe tout de suite au deuxième paragraphe. Le Christ que le Père a sanctifié, c'est-à-dire consacré et envoyé dans le monde, s'est donné pour nous afin de racheter et de purifier de tout péché un peuple qui lui appartienne. Je continue. De même les prêtres, consacrés par l'onction du Saint-Esprit et envoyés par le Christ. Vous voyez, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. De même les prêtres font mourir en eux les œuvres de la chair et se vouent tout entier au service des hommes. Telle est la sainteté dont le Christ leur fait don et par laquelle ils progressent vers l'homme parfait. C'est bien de réentendre cette volonté fondamentale de l'Église dans son Concile Vatican II, en ces jours où on pourrait être tenté de désespérer de tout ça et de croire que tous les prêtres sont des scandales vivants, quoi. Et donc, il est question ensuite de la vie spirituelle. Et alors, je passe tout de suite au chapitre 13. L'exercice de la triple fonction sacerdotale exige et en même temps favorise la sainteté. Vous savez quelle est cette triple fonction sacerdotale? On les appelle à chaque fois un mounous, ou une charge. Vous savez mieux que moi traduire ce genre de mots. Et donc, il y a trois munera. Le munus docendi, donc la charge d'enseigner, je prononce à l'ecclésiastique, hein. Le munus regendi, la charge de gouverner, de régir, de conduire le peuple chrétien, de le rassembler dans l'unité et en charité, et puis le munus sanctificandi, donc de sanctification, principalement par la liturgie et les sacrements, les actes que pose le prêtre pour permettre au Seigneur d'agir sacramentellement. Donc, alors, l'exercice de la triple fonction sacerdotale, avec cette première phrase du paragraphe, c'est l'exercice loyal, inlassable de leur fonction dans l'Esprit du Christ, qui est pour les prêtres le moyen authentique d'arriver à la sainteté. Donc on est appelé à être saints, vous et nous, hein, ça, on est même appel à la sainteté. Nous, ça va passer beaucoup par l'exercice inlassable et loyal de nos fonctions. On pourrait dire autre chose que fonction, ça fait un peu fonctionnaire, mais
comme des tripes.
Oui, je sais, c'est pour ça que je lance la blague. Et donc, le fonctionnaire. Et donc, l'exercice loyal inlassable des fonctions dans l'esprit du Christ, qui est pour le prêtre. Alors, dans l'esprit du Christ. Malheureusement, on peut être prêtre aussi en oubliant que c'est dans l'esprit du Christ. Alors, parfois, il y a des prêtres qui sont prêtres pour eux-mêmes, pour leur gloriole. Enfin, on n'a pas à juger, hein, mais parfois, on peut voir des mauvais exemples si ça arrive. Malheureusement. En tout cas, ce que nous cherchons toujours et ce qui nous rend véritablement joyeux, c'est de rechercher à vivre les choses dans l'esprit du Christ. Par exemple, quand on reçoit des pénitents, on a en tête, bien sûr, toute l'exigence, les dix commandements, les béatitudes, tout l'évangile, toute l'exigence radicale de sainteté que Dieu nous appelle à vivre. Mais on accueille des pauvres pécheurs qui viennent nous confier leurs péchés. Nous aussi, on est pauvres pécheurs. Et on a exercé quoi ? La miséricorde de Dieu. Donc l'amour du pécheur, la haine du péché, la haine terrible du péché, la haine absolue du péché, mais l'amour du pécheur. Et je pense que, vous voyez, dans l'esprit du Christ, on n'a pas à juger, à condamner les personnes. On les accueille, surtout si elles viennent se confesser. Et nous aussi, on se confesse régulièrement, bien sûr. Eh bien, on a envie d'une chose, c'est que les gens soient guéris par l'amour de Dieu lui-même, soient sauvés, soient pardonnés, sauvés, libérés par l'amour de Dieu qui est plus fort que nos péchés. Donc, l'exercice de ces fonctions dans l'esprit du Christ. Donc après, il y a ministre, vous voyez, ministre de la parole de Dieu, ministre de la liturgie et guide et pasteur du peuple de Dieu. Je souligne juste que, c'est des choses qu'on va voir au verso de la feuille, mais dans le mystère du sacrifice eucharistique, nous sommes invités à imiter ce que nous célébrons. Dans l'Eucharistie, nous célébrons donc le mystère pascal du Christ, la mort et la résurrection du Christ, et l'offrande totale du seul sacrifice qui convienne au Père et qui est le retour à Dieu de toute l'humanité et même de toute la création dans cette offrande sacrificielle du Fils unique. Et c'est ça la véritable action de grâce, à la fois merci et puis réponse à la grâce. Et donc la substance même de l'Eucharistie, bon, c'est le corps du Christ, c'est le corps du Christ livré dans sa passion et ressuscité, mais nous sommes, quand nous célébrons la messe, nous sommes appelés à imiter ce que nous célébrons. Et tous, je crois, mais en particulier les prêtres. C'est présent dans la liturgie qui fait les prêtres, la liturgie de l'ordination. Voilà, je termine par quelques mots sur le rituel de l'ordination. Avant d'être ordonné prêtre, on a été ordonné diacre, et c'est au moment du diacre qu'on a choisi librement, mais comme un don de Dieu aussi. On peut choisir librement de recevoir un don de Dieu, hein, c'est pas contradictoire. Le célibat pour le royaume. J'ai passé une heure tout à l'heure au téléphone, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de finir de préparer, mais une heure entière, 1h10 je crois, avec un journaliste de BFM TV. Qui voulait comprendre le célibat des prêtres. Mais il m'a touché. Je ne pense pas qu'il fasse des vacheries par derrière, encore que il faut s'attendre à tout. Mais en tout cas, il va écrire et me soumettre son écrit avant de le publier sur le site, etc. Et je pense que, voilà, en une heure, il a compris un petit peu des choses, je crois, sur le sens du célibat. Mais d'ailleurs, il est catholique, celui-là. Il avait déjà compris certaines choses avant de m'interroger. Mais quand même, on a eu une belle discussion. Et donc, avant d'être ordonné prêtre, on est ordonné diacre. Et quand on est ordonné diacre en vue du sacerdoce, en tout cas en Occident, en Orient, ça va se décaler d'un cran, c'est-à-dire que ça sera entre le prêtre et l'évêque. Mais en tout cas, quand on est ordonné diacre en vue du sacerdoce, on promet le célibat au moment du diaconat. Et là, on promet de donner toute sa vie, corps et âme. On ne va pas se diviser en petits morceaux. Belle anthropologie, là, vous voyez, bien unie. Tout entier, on se donne pour le service du Christ et de l'Église. Et par amour, et librement. Donc il y a quelque chose de l'ordre des épousailles, en fait, mais qui est une forme de renoncement aussi, bien sûr, et de continence, et de chasteté. Et voilà, chasteté, tout le monde y est appelé. Mais en tout cas, de célibat au sens, pas simplement de disponibilité, parce qu'on pourrait dire qu'à ce moment-là, un pompier ou un chirurgien, il doit être célibataire aussi. Ben non, mais de disponibilité pour annoncer, pour prophétiser par notre propre vie. C'est un rôle prophétique, en fait, hein, comme les prophètes qui, par leur vie, disent quelque chose de Dieu. Et le célibat des prêtres, il y a quelque chose de prophétique et d'eschatologique. C'est pas simplement fonctionnel ou organisationnel, voyez. Mais en Orient, pareil pour les évêques. C'est prophétique et eschatologique parce que c'est une parole adressée au monde. D'ailleurs, on le voit même en ce moment, même ces jours-ci, en fait. On va se prendre une avalanche de critiques sur le célibat des prêtres, qui est évidemment la cause de toutes les dérives et tout ça. Mais c'est pas grave. Il faut garder la tête. Il faut garder le cap. Il faut entendre les cris de révolte et les cris des victimes. Il faut évidemment respecter absolument la souffrance énorme de la plupart des victimes et pleurer avec ceux qui pleurent, ça, vraiment. Mais sur le célibat, il ne faut pas bouger. C'est une grâce pour le monde d'aujourd'hui et de demain, encore plus que c'en était une il y a 20 ans ou 40 ans ou 100 ans. C'est encore plus prophétique, en fait. Et donc, en fait, j'ai dit ça de manière très simple tout à l'heure au journaliste. Je lui ai dit, écoutez, le célibat, parce qu'il me dit, mais au fond, pourquoi le célibat? Et je lui ai répondu, peut-être pour que vous me posiez cette question. Voilà. Et que vous voyez que derrière votre question, il y en a d'autres. Et que derrière mes réponses, il y a d'autres réponses encore. Et que, en fait, mon célibat, il vous parle, il vous choque, il vous provoque, il vous plaît pas, il vous déplaît peut-être. Voilà. Mais en tout cas, il vous parle, il vous dit quelque chose. Il vous dit que l'amour de Dieu suffit à combler une vie. Il vous dit qu'on est tous faits pour aimer de manière infinie au ciel et dans le royaume. Il vous dit qu'on est appelé à la résurrection et que... la vie que Dieu nous donne est éternelle. Il vous dit tout ça, en fait. Il vous dit aussi que le prêtre qui offre l'Eucharistie, il est configuré au Christ, donc il essaye aussi d'imiter la vie du Christ, hein, et donc la solitude du Christ devant le Père, avec le monde entier que le Christ prend sur ses épaules, et pas seulement une famille. Et ensuite, il est le signe aussi que celui qui offre et ce qui est offert sont en vraie communion. C'est-à-dire que nous offrons pour le peuple chrétien, et cette offrande, comme elle est celle du Christ aussi, dans l'Eucharistie, vous voyez, elle est totale, elle est plénière, elle est parfaite, et notre vie, en dehors de l'Eucharistie, veut signifier ça aussi, que l'offrande est totale. Et que c'est ça qui réconcilie le monde avec Dieu. C'est ça qui réconcilie le monde avec lui-même, qui lui donne la vraie paix. Voilà. Et donc, c'est le célibat est prophétique. Il est un renoncement. Je suis prêt à vous dire, à vous donner 1000 exemples du fait que c'est un vrai renoncement. Bien évidemment, mais il n'y a pas de vie sans renoncement. Je pense pas. Enfin, même quand on se marie, c'est un renoncement à épouser les autres. Normalement, enfin, j'espère. Mais en tout cas, c'est il y a vraiment un signe prophétique, eschatologique, qui nous dit la fin du monde, la finalité du monde, en fait. Et ce que le monde aujourd'hui voit comme une mutilation, une peur du mariage, une peur de la sexualité, non, mais arrêtez, enfin, c'est idiot. Enfin, on peut pas dire ça comme ça. On peut pas dire qu'ils sont idiots, quand même, mais parce que ils comprennent pas. Et c'est ce que j'ai dit aussi une fois à toute une ribambelle, enfin une centaine de jeunes, de lycéens, de terminale, je crois, de garçons et filles, et qui me posaient la question. Puis il y a une fille qui dit: mais mon père, enfin, vous êtes bien, vous êtes sympa, pourquoi vous ne vous mariez pas, quoi? C'est idiot.
C'est marrant que je me dise.
Et donc je termine. Et je ne sais plus ce que j'ai répondu. Ah ben si, voilà, cette fois-ci, je lui ai répondu, écoute. Je lui ai répondu par une question d'abord. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu venu dans le monde, mort et ressuscité pour ton salut? Ouais, je dirais peut-être pas ça comme ça, mais peut-être, ouais. Je dis, si tu n'y crois pas, je vais t'expliquer pourquoi je suis célibataire. Mais si tu ne crois pas à la question que je viens de te poser, peut-être tu ne vas pas comprendre pourquoi je suis célibataire, effectivement. Parce que tout est lié, comme dit... tout le monde, comme dit le pape François, entre autres. Mais tout est lié. Et il faut peut-être des heures pour expliquer ça, mais voilà, j'ai encore combien de temps? Sérieusement, il y a 41
peut-être,
minutes,
peut-être
là.
On peut passer aux
questions.
Aux questions, c'est... On t'a laissé un peu...
Je vous ai mis le...
On a commencé en rituel. Parce qu'ils ont mangé très lentement.
Oui, c'est...
Malgré mes avertissements.
Ouais. C'est trop bon, voilà.
Donc, si vous avez... juste pour vous expliquer que la page 2, j'ai mis les rituels de l'ordination, hein, et que ça vaut le coup de méditer. C'est l'ex orandi, l'ex credendi. Vous connaissez peut-être cet adage qui est dû à un secrétaire de pape du 6e siècle.
C'est Prosper d'Aquitaine.
Hein. Ouais, c'est Prosper. C'est pas mal. C'est le secrétaire du pape, non?
Je sais pas, peut-être.
Ouais. Prosper d'Aquitaine, ça doit être en 600 quelque, non? Et qui justifie, en fait, dans une discussion, je ne vais pas m'étendre là-dessus, dans une discussion théologique, il appuie son affirmation théologique sur une prière qui est dite partout et par tous, c'est traditionnel, partout, par tous, qui lui sert d'appui, d'argument pour justifier ce qu'il affirme et être en communion avec d'autres, etc. Et donc, l'ex orandi, on a retenu l'adage, l'ex orandi, l'ex credendi. La loi de la prière, c'est la loi de la foi. La loi de la prière dit, donne la loi de la foi, et inversement d'ailleurs. Voilà, donc vous pouvez voir dans ces textes une bonne théologie de... Alors, des questions?
Merci. Merci beaucoup, ça fait du bien de t'entendre. Je le connais depuis très longtemps, le père de Camille.
Oui.
C'est un très, très, très sympa.
Non, arrête!
Je suis bien content qu'il soit là. En ces temps un peu compliqués pour nous. Ouais. Il y a peut-être des questions que vous voulez lui adresser à propos de ce que
j'ai dit. Soit sur ce que j'ai dit, soit sur l'actualité, si vous voulez. Oui.
Les trois fonctions sacerdotales, c'est donc pour ça qu'un prêtre, la grâce que Dieu donne au prêtre, c'est pour ces trois fonctions-là, essentiellement. Mais il me semble quand même qu'aujourd'hui, il y a pas mal de prêtres, et je pense notamment des curés, qui ont beaucoup d'autres fonctions que ça. Et ma question, c'est d'abord de savoir si, historiquement, comment ça s'est réparti entre eux, les fonctions vraiment techniques de la cure, etc., et les fonctions sacerdotales proprement dites, comment ça a évolué au cours du temps, et est-ce qu'aujourd'hui, ce serait souhaitable de faire en sorte que les prêtres aient le plus de temps possible pour se consacrer à ces trois fonctions-là.
Tu peux répondre à ça, je... C'est souhaitable qu'ils aient le plus de temps possible, ça c'est...
c'est ça. Oui, pour ces trois fonctions-là, sûrement, elles regroupent déjà pas mal de...
En fait, il y a même des choses que tu appellerais peut-être techniques, comme par exemple s'occuper de, je sais pas, du plombier. C'est pas étranger au mousse gouvernandi, ou vejandi. On est une religion incarnée. Il y aura un danger, je trouve, de dire le prêtre, il pense au plus des trucs nobles. Enfin, tout à l'heure, j'étais pas hésité à... transporter une assiette sale, il y a des témoins, voire même deux. Voilà, c'est aussi ça. Mais sérieusement, je pense que ce qu'il faudrait pas, c'est que le prêtre se transforme, soit complètement absorbé dans des tâches, pas de faire des tableaux Excel toute la journée pour vérifier le... Parce que dans une paroisse, il y a aussi presque une fonction de chef d'entreprise, quoi. Il y a des salariés. Bon. Alors là, ça serait dommage. On peut nommer des laïcs compétents en disant bah, tu vas t'occuper de la compta, tu vas t'occuper du personnel pour salarié, parce qu'il y a un droit. Quoi. Faut trouver. Enfin, je sais pas, moi je réponds à ta place, il faut trouver. En tout cas, ces trois monera me semblent vraiment, je pense que c'est à la fois existentiellement très bien vu et en plus profondément biblique. Ça reprend tout l'Ancien Testament avec. La sagesse qui est associée au roi, avec les prophètes, avec la sanctification qui est attachée au prêtre. Et le Christ, en fait, il unifie les trois monéras. C'est pour ça que ça nous heurte aujourd'hui, et on va en parler, parce qu'on va dire que c'est pas bien dans notre idée que pour être. Il y a une assurance institutionnelle en séparant les fonctions. C'est comme ça que la démocratie se constitue, d'ailleurs. On sépare les pouvoirs. Alors, on va dire que c'est pas prudent qu'un seul homme concentre. Trois fonctions différentes, mais le problème c'est que le Christ les a unifiées et il les transmet unifiées dans le sacrement. Alors c'est sûr, il y a des dérives, il y a des risques, et je pense que plus le Seigneur nous donne un service, parce que c'est toujours un service, plus c'est un service qui est appelé à être ample et toucher beaucoup de personnes, ce qui est quand même le cas du prêtre, beaucoup de gens. Plus c'est grave, enfin si déconne, enfin ça c'est gravissime. C'est, donc ça va de pair. Hein. Mais les trois monéras, pour moi, c'est quelque chose de vraiment. Là, je trouve qu'on est dans une excellente théologie du sacerdoce. C'est très, à la fois très, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à la fois très incarné, très juste, chaque jour au quotidien du prêtre, et en même temps très riche théologiquement. C'est vraiment les deux.
Oui, je suis d'accord. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est sûr que moi j'ai entendu Monseigneur 23, c'est le précédent évêque de Paris, qui est encore vivant, qui est encore à Paris, qui est cardinal, mais qui n'est pas en grande forme. Mais me dire, je suis allé le voir il n'y a pas très longtemps, tête à tête, pour lui demander plein de conseils, et me dire, bah oui, le prêtre, il faut qu'il s'occupe plus de. Alors, lui penchait plus vers le. Il ne penchait pas vers un des trois Mounera plus que vers les autres. Il disait simplement il faut que le prêtre fasse ce qui est spécifique de son ministère de prêtre. Donc c'est un peu différent. Il ne s'agit pas de choisir plutôt d'être toujours dans la sacristie, de faire que des sacrements ou de la prière. Ce serait le Mounus sanctificandi. Puis on ne peut pas séparer comme ça. On ne peut pas. En revanche, on peut élaguer, certainement, aider les prêtres à élaguer des choses que d'autres pourraient très bien faire. Il n'y a pas besoin du sacrement de l'ordre pour effectivement faire les photocopies ou les tableaux d'Excel. Parfois, si, c'est nous qui faisons. Mais voilà, il faut savoir aussi partager, comme on le voit dans les actes des apôtres, comme on le voit dans l'évangile même. Il y a des femmes qui courent derrière les apôtres, qui sont toujours à préparer les choses, et pas seulement la cuisine. Il y a des hommes aussi qui sont là, on sait, il y a la femme de l'intendant d'Hérode, dans l'organisation de l'Église, dès l'origine, il y a un partage évidemment des tâches, mais il y a une spécificité sacerdotale qui tient aux actes du Christ lui-même, qui rassemble dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, qui les enseigne avec une autorité, et qui les nourrit. Dans Jean 6, hein, dans le tout le discours de Jean, du chapitre 6 de Saint Jean, avec le pain de vie, etc., il y a tout ça, en fait. Il rassemble, il parle, il nourrit, et la nourriture, c'est sa parole, mais c'est aussi le pain, la chair donnée pour la vie du monde. Tout est lié. Et donc, le prêtre, sûrement, il peut éviter de... Ouais. Mais hier, en plein boom d'appels du service communication du diocèse, d'un séminariste qui allait pas bien, d'un journaliste qui voulait son interview, de machin, de trucs, y a la ville de Paris qui est venue parce qu'il y avait des ouvriers sur le toit et qu'il fallait que j'aille leur ouvrir et puis aller voir sur le toit s'ils allaient remplacer le bon zinc sur le toit, du presbytère de Saint-Germain-l'Auxerrois. Voilà, je l'ai fait. S'il y avait eu quelqu'un de disponible à ce moment-là, je lui aurais passé les clés. Mais vous voyez, c'est une vie tout ça, c'est un peu une vie de famille aussi là, l'église, hein. Donc voilà. Oui.
Et du coup, le Munus Veganini, il se concrétise dans quoi ? Est-ce qu'il ne soit pas qu'il soit différent de l'éducation et de la liturgie ?
Alors justement, il se caractérise par quoi ? Par le D'abord par le fait, je crois, hein, mais que l'assemblée, une paroisse, une communauté, une aumônerie, elle tient pas simplement parce qu'il y a des gens qui sont sympathiques, qui s'entendent bien entre eux. Elle tient parce que le Christ est là. Et le prêtre signifie cette présence du Christ qui rassemble les gens qui, a priori, ils n'avaient pas les mêmes opinions, les mêmes goûts, les mêmes âges, les mêmes milieux sociaux, etc. Mais ils sont là ensemble parce que c'est le corps du Christ. Ça, c'est déjà... C'est au cœur de ce mounous-là. C'est-à-dire que c'est le fait de gouverner le peuple, c'est d'abord le fait de le recevoir de Dieu comme un peuple uni. Et le curé, c'est celui qui a la cura animarum, le soin des âmes d'un territoire donné. Et l'évêque, celui qui veille sur, et puis pousse, qui veille sur, ou qui surveille, enfin qui veille sur, disons, le peuple chrétien qui lui est donné sur un diocèse. Déjà, il y a cette réalité-là qui est donnée par Dieu. Comme Dieu donne à Moïse le temple, enfin c'est encore une autre réalité, mais il lui donne un peuple aussi à Moïse. Moïse, d'ailleurs, il est surpris. Pourquoi ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je suis incapable. Oui, mais c'est toi qui vas gouverner. Même si après, il partage effectivement le pouvoir avec... enfin, le pouvoir, l'organisation de la guidance du peuple. Mais...
Oui, c'est ça. Moi, j'y vois d'abord celui qui conduit. C'est lui déguise, alors qu'il peut être toute petite. Qui peut être très, très grosse, selon la taille. Mais qui conduit, qui a conduit quelque part, mais évidemment en essayant d'être docile à ce que dit l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint s'exprime prioritairement aussi dans la vie spirituelle des personnes qui constituent cette cellule d'Église. Oui. Olivier y a fait allusion, on en parle beaucoup de synodalité, on est en train de réfléchir à ça. Et je pense que c'est un peu l'idée du pape François, c'est de dire qu'il faut. L'évêque ou le prêtre ne peut pas arriver comme ça en disant. Voilà, on va faire ci, on va faire ça, puis vous obéissez. C'est d'abord quelqu'un qui écoute le prêtre, il écoute Dieu, il écoute son peuple, de plein de manières différentes. Ça peut être dans des rencontres individuelles, ça peut être aussi parce qu'on sent les choses, parce que quelqu'un qui est là pour le moment, tout le monde est chamboulé par un décès. Donc il écoute son peuple, et dans la prière, il se dit, à travers ce que j'entends, je vois que le Christ, qui est le vrai pasteur, qui est le vrai prêtre, il me dit, mais ton peuple, amène-le là, essaye de l'amener là. Et en fait, ce que je trouve très beau, c'est pour ça que ces querelles entre les divisions, les querelles entre laïcs et prêtres, d'une certaine manière, moi, bien j'ai du pot, ou bien c'est que je suis un peu, que je ne vois pas, mais j'ai toujours l'impression que, en fait, c'était. Moi, j'ai toujours été très heureux d'être avec des gens. Pas prêtre, avec des brebis, avec des laïcs. Et qu'en fait, j'avais l'impression, pour moi, les princes, en gros, c'est un exemple Je trouve que c'est génial de conduire l'aumônerie, pas moi tout seul, mais avec les princes. Sans les princes, je pourrais faire absolument rien. Et en même temps, c'est pas eux qui décident à ma place. Enfin, je fais mon boulot de prêtre. Et en fait, je pense que Jésus a mis l'église aussi comme ça, parce qu'on est heureux. Je suis heureux d'avoir les princes. J'espère que les princes ne sont pas trop malheureux d'avoir un aumônier au-dessus d'eux. Mais il faut un regard un peu mystique, c'est ce que disait, je pense, Olivier, quand il disait, mais c'est très compliqué d'expliquer ça, qu'il y a un regard uniquement sociologique, c'est pas qu'il n'a pas de valeur, mais comme l'Église est déjà dans son fond, l'Église est une réalité surnaturelle. Ça veut dire qu'elle inclut la nature, mais qu'elle la dépasse aussi. Alors, c'est très compliqué d'expliquer, avec des critères purement humains, une réalité qui, dans son fond, vient du ciel, en fait, vient de... En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand un prêtre se trompe, même il fait des fois des choses graves, c'est le devoir des fidèles de lui dire, peut-être aussi de le dire à son évêque, ou de le dire à quelqu'un d'autre, enfin, c'est même inscrit dans le droit canonique, on a un droit des fidèles. Mettons pas tout, c'est pas uniquement pour les choses monstrueuses, hein, mais un bon disciple du Christ qui est baptisé, il n'est pas passif, il a un discernement, l'esprit lui est donné et Jésus lui parle, ça c'est certain. Donc gouverner, je dirais, c'est ça, c'est essayer quand ça marche, c'est d'atteindre cette espèce de unité entre les différents états de vie, parce qu'il y a aussi, dans une communauté chrétienne, il peut y avoir aussi des religieuses, des religieux, les moines, donc en fait il y a tous les états de vie. Et comment est-ce que tout le monde essaie d'écouter le Christ, mais c'est pas si simple que ça, mais à un moment donné, il y en a bien un qui tourne le gouvernail, et c'est l'évêque. C'est d'abord l'évêque, le vrai prêtre, c'est Jésus, après c'est l'évêque. Nous, on est coopérateurs de l'évêque. Pour moi, c'est ça, c'est très proche du pasteur, en fait, je trouve.
Oui, l'image du bon berger, du bon pasteur, dit vraiment... Oui.
À propos du rapport, par rapport à ça, du boulot, je voulais savoir si l'Église avait commencé à réfléchir à des solutions concrètes pour éviter que ça se reproduise.
Ouais.
En fait, on est un peu démunis, nous, en tant que chrétiens, quand parce que là, on est tous un peu sous le choc, mais du coup,
bien sûr.
Pour demander.
Oui. Donc, oui, bien sûr. Il y a déjà des choses. Je dirais que depuis l'an 2000, hein, ça fait 20 ans en fait qu'on met en route des choses, mais on les mettait peut-être à la vitesse de chevaux, et maintenant il faut passer à la Porsche. Quoi, parce que il faut accélérer. Quoi. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que, notamment, on essaie de soigner le discernement des vocations. Alors comment ? Par des regards croisés, par des témoignages qui nous sont donnés, les personnes. Moi, je vois ce qu'on peut faire pour la formation. Hein. Ce que j'ai décidé aujourd'hui, c'est que j'étais pas très chaud jusqu'à présent, mais en fait, j'ai décidé aujourd'hui que désormais, on ferait une évaluation psychologique des candidats au sacerdoce. Pas un suivi psychothérapeutique obligatoire. Ça, c'est pas possible d'ailleurs. C'est contre. C'est anti, c'est pas la déontologie. Et donc, ça non, mais de faire le point quand même sur l'équilibre psychologique, en évitant aussi de penser qu'il y a un modèle idéal et qu'on est tous là aussi des clones ou des gens sortis d'une machine. On n'est pas, voilà, personne n'est parfait, mais en tout cas de repérer déjà à ce niveau-là s'il y a une blessure importante, sans accuser les personnes, hein, c'est pas du tout le but, mais voilà, de faire cette évaluation. Ensuite, il y a déjà depuis longtemps, par exemple, tous les séminaristes aujourd'hui doivent passer le BAFA, et si possible le BAFD, donc vous connaissez, hein, animateur ou directeur de centre de vacances, et vous savez que dans ces formations, eh ben, il y a des formations très précises sur l'attitude envers les enfants, sur le droit des enfants, sur le droit des parents, sur etc., etc. Donc, il y a tous les séminaristes, tous les futurs prêtres sont formés à ça. Moi, j'ai pas passé le BAFA, parce qu'à mon époque, on s'en fichait. Si on avait été un bon chef scout, bah, c'est bon, on n'aurait pas besoin de passer. Mais aujourd'hui, il y a très peu de séminaristes. Bon, il y a des exceptions parce qu'il y a ceux qui vont vraiment avoir complètement un autre type de mission. Mais en tout cas, la plupart maintenant font de BAFA, BFD. On fait des relectures systématiques des expériences qu'ils vivent en paroisse ou dans des centres de vacances ou dans l'accueil des sanctuaires ou je sais pas quoi. On fait une relecture, c'est-à-dire un écrit du séminariste lui-même, un écrit de deux ou trois témoins pour voir si ça converge, si on est d'accord sur le... Voilà, il y a quand même une expertise, enfin vous voyez, une relecture beaucoup plus approfondie aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et ce qui va accélérer maintenant, je crois, alors c'est...
Ce que tu dis, c'est très important, c'est en amont, c'est la formation. C'est
en amont, ouais.
Mais en aval, alors, je ne saurais pas dire depuis quand, mais je dirais quand même bien depuis 10 ans. Ouais. Je ne sais pas non plus si c'est dans tous les diocèses.
La dénonciation.
Mais il y a des cellules d'écoute, il y a des gens. Donc,
ah oui, bien sûr.
Et je pense qu'on essaye quand même de prendre beaucoup plus au sérieux les appels de gens qui disent qu'ils ont été témoins de trucs ou quand même ont été victimes d'abus, notamment sexuels. Et évidemment, il faut avoir un petit discernement, parce qu'il peut y avoir aussi des gens un peu dérangés. Mais si la chose est plausible, tout en essayant de respecter la présomption d'innocence, le prêtre qui est soupçonné est immédiatement mis à l'écart d'une mission, par exemple, qui met en contact avec des enfants. Et puis après, ben, si on s'en met insciemment au procureur, le diocèse de Paris a fait un accord avec le procureur de Paris pour justement que Donc il y a quand même... les choses ont quand même changé.
Oui. C'est sûr que les cellules d'écoute, c'est très important. Vous pouvez répondre ça aux gens qui vous posent la question. C'est aujourd'hui, je pense, c'est à vérifier peut-être, mais que tous les diocèses de France ont une cellule d'écoute, c'est-à-dire un numéro d'appel et des personnes très compétentes, disponibles pour accueillir les personnes, répondre et...
Et puis les orienter.
Voilà, et les orienter.
Ça veut dire, dans ce cas-là, aller voir le procureur.
Ensuite, la dénonciation. Le processus est... On va distribuer dans toutes les paroisses un petit dépliant qui dit en 4 pages ce que l'Église a déjà fait, ce qu'elle va faire. Voilà. Vous allez voir ça dimanche prochain. C'est très clair et c'est très... les cellules d'écoute. Aujourd'hui, je pense qu'aucun prêtre ou aucun responsable, même laïc, d'une institution d'Église ne penserait classer comme ça... écarter un début de dénonciation, de suspicion. Il va prendre tout de suite au sérieux, quoi. Alors, comme dit Père Eiffel, il faut faire attention aux dénonciations calomnieuses qui peuvent toujours exister, hein, mais... ou aux rumeurs qui font pas de bien, comme disait Saint-François de Sales, le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit. Mais en tout cas, les processus... Voilà, de dénonciation, de clarification. Pareil, un évêque, il a pu... Maintenant, si un prêtre a fait des actes vraiment criminels envers des enfants, ou même délictuels, enfin, graves, quoi, il ne va pas le mettre dans le collège qui est à l'autre bout du diocèse.
J'allais dire ça.
Parce que ce n'est pas grave si c'est un collège, disons que c'est à l'autre bout du diocèse, il n'est pas connu. Donc, non, ça, c'est terminé, ça. Terminé. Mais depuis déjà 10-15 ans, depuis les affaires de... Monseigneur Piquant à Rouen, les pauvres, hein, Monseigneur Piquant à Rouen, Monseigneur un peu Barbarin à Lyon, etc. Mais les pauvres, ils ont été pris dans des séries de... c'est pas une omerta, je pense qu'on peut pas accuser l'Église d'avoir... Enfin, si, peut-être parfois ça a été volontaire, mais on n'a pas été assez courageux devant la vérité de ces faits-là, ça c'est sûr. Et on n'a pas... caché pour cacher, mais on a caché pour protéger parfois, ou parce qu'on pensait que ça protégeait la réputation de l'Église, ou la réputation de l'évêque, ou la réputation des prêtres, ou la réputation des prêtres en général. Etc. Mais en fait, il fallait pas faire partir de ces principes. Il fallait protéger l'enfant d'abord. Donc ça, on s'en est rendu compte peu à peu et de plus en plus, mais déjà il y a quelques années. Hein. Simplement, ce rapport, il vient... ouvrir tout grand le panorama, donc y mettre la lumière totale sur tout, enfin presque, parce que et du coup on peut plus dire qu'on ignore, enfin c'est pas possible. Donc alors qu'est-ce que l'Église fait d'autre? Ben voilà, oui, moi je
C'est sûr que dans le séminaire, on a beaucoup plus de psychologues qui interviennent, qui sont là. Beaucoup plus de séminaristes qui me demandent de l'aide de ce point de vue-là. Et heureusement, c'est pas des...
C'est pas de son point de vue psychologique.
Hein, oui, c'est pas de vue psychologique.
Ça veut pas dire... Ouais.
Ça veut pas dire qu'ils ont pas besoin... Enfin,
ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément que t'as beaucoup de scénaristes qui te disent « Oula, j'ai des problèmes... »
Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout.
Ça n'est pas vu comme... Non, mais ouais. Psychologiquement, ouais. C'est jamais très facile. Ouais, je sais pas pourquoi, mais si on se casse la jambe, personne n'a peur d'aller se faire mettre un plâtre. De dire « J'ai besoin d'une aide psychologique », je trouve que... Il faut un peu d'humilité, c'est des. Et je me semble, c'est mieux quoi, mais qu'aujourd'hui, un scénariste, pour X raisons, se dit, mais ouais, il a beaucoup moins peur d'aller voir le supérieur et de dire, mais j'ai besoin du aide, il faut trouver un bon psychologue, d'ailleurs, c'est pas toujours si facile, mais c'est vrai que du coup, ça favorise. Après, le gars il peut se rendre compte qu'effectivement, il a des blessures affectives, psychologiques, qui risquent de s'aggraver. Et qu'il faut peut-être mieux qu'il arrête sa formation. Mais disons que ça facilite le discernement.
Oui, c'est ça. Après, il y a un moment où il faut se dire dans la foi aussi que Dieu seul peut guérir, sauver. Ça n'empêche pas qu'on a toutes ces décisions à prendre, très concrètes, très, bien sûr, et c'est même lié, enfin, mais, parce qu'il faut coopérer à cette action de Dieu. Mais c'est comme dit l'île de Baruch, là, que j'ai relu une partie de l'île de Baruch, notamment les chapitres 4 et 5, vous savez, où Jérusalem pleure parce que ses enfants ont péché, et donc ils ont été exilés. Donc Jérusalem, elle se retrouve toute seule, sans enfants, chez elle, quoi. Ils sont à Babylone, et elle pleure. Et à un moment, elle dit, je pleure parce que mes enfants, ils sont dans une nation où l'on ne respecte ni le vieillard, ni le petit enfant. La Bible, elle parle de nous, elle parle du présent. En fait. Mais en tout cas, et elle pleure, et puis à un moment, elle dit, mais moi, je ne peux rien pour vous. Seul Dieu peut faire quelque chose pour vous. C'est fort, hein, quand même. C'est-à-dire qu'il faut que nous, chrétiens, dans cette période-là, on soit aussi... ardent dans la prière. C'est là, dans ce passage-là de Baruch aussi, qu'après, il est dit « Une fois revenu, quand vous serez revenu, quand il y aura cette guérison qui va se faire, mais même si pour certaines victimes, ça va être jusqu'à la fin de leur vie, malheureusement, c'est révoltant, quoi. Mais le texte dit « Une fois revenu, mettez 10 fois plus d'ardeur à chercher Dieu. » C'est-à-dire qu'il y a aussi dans le retour d'exil, parce qu'il y a quelque chose, une espèce d'espérance plus forte, mais qui nous engage. Il faut penser que Dieu, en ce moment, nous juge. Moi, je crois, je le dirais peut-être pas comme ça à des journalistes, mais Dieu, il juge son Église en ce moment. Il nous juge, mais au sens vrai du mot jugement. Et en même temps, c'est un jugement de salut. C'est un jugement pour nous sauver. C'est un jugement pour nous. Pour donner à son Église un nouvel élan de sainteté. Quoi.
C'est vrai que peut-être il faudra qu'on se rappelle, mais là on a parlé du prêtre en amont, en aval, mais je pense qu'il y a un de mes amis prêtres, son évêque lui a demandé d'accompagner certaines victimes ou des gens qui ont été abusés sexuellement par des prêtres quand ils étaient gamins. Et en fait, il dit que c'est vraiment, il voit des gens mais fracasser même leur famille, en fait, c'est le mal que ça. Et ça aussi, je crois, c'est un des grands. Comment dire, ça fait. C'est ce rapport qui est vraiment très douloureux, mais il nous met face à ça, c'est qu'on a été insensible à la douleur de ces gens. Ça, c'est, je pense quand même que c'est vraiment. Pour moi, c'est ça qui est peut-être le plus grave, c'est qu'il y a un manque de charité, un manque d'empathie, un manque de. Et là, ben, je vous dis, cet ami prêtre, son évêque l'a demandé, ce qui n'est pas une mission très très. Mais je pense qu'il le fait remarquablement bien, vraiment. Bon, ben je me dis, c'est aussi comme ça que la faiblesse humaine, parce qu'en fait, c'est tellement douloureux qu'on se dit. Enfin, c'est comme des fois, il y a des gens qui viennent nous dire leur malheur qui n'ont rien à voir dans ces domaines-là. Puis, ils viennent le dire à leur prêtre parce qu'ils ont besoin de le dire à quelqu'un. Puis, on dit, mais qu'est-ce que. En vrai, je vais prier pour vous, mais on se dit, mais c'est vous. on voudrait faire plus, mais on ne peut absolument rien faire. Et peut-être qu'on va être confronté aussi à notre, des blessures tellement graves que des hommes d'église ont infligées, qu'on va être démunis. Mais au moins, en pleurant et en priant, je pense qu'on ouvre un espace à Dieu. Alors, c'est dans la foi. Hein. Mais c'est sûr que c'est...
Dernière question.
Oui. Moi, je me demandais si l'Église doit-elle en fait nécessairement se conformer à l'ordre légal d'un État dans lequel finalement elle se déploie. Et je pense notamment, justement, et ça fait écho un peu au mythe de Baruch, je pense notamment pendant le confinement, beaucoup de gens l'ont vécu comme un déchirement de ne pas pouvoir finalement se nourrir spirituellement. Et beaucoup de gens, par exemple, auraient voulu que, beaucoup de catholiques auraient voulu que, par exemple, l'Église, justement, prenne non pas simplement une sorte de rébellion un peu enfantine, mais simplement trouve un peu son indépendance pour permettre aux gens, finalement, de continuer à se nourrir spirituellement. Et malgré le risque éventuel de la maladie, parce que, justement, il y en a beaucoup qui estiment que la proximité avec Dieu, que Dieu fait tout, et qu'à ce titre-là, finalement... pourrait dépasser certains risques un peu sanitaires. Et moi, ça me faisait penser aussi au livre de Daniel aussi, qui justement essaye de ne pas nécessairement se conformer toujours à l'ordre du gouvernement dans quel il vit.
Ce sera sans doute l'objet d'une soirée entière, ça. Mais...
C'est une question très importante qui rejoint un peu la dimension prophétique du prêtre. Ouais. Parce que mais c'est vrai que là, il ne faut pas qu'on... C'est trop tard pour qu'on l'aborde, mais on en reparlera parce que je trouve que c'est une question importante et qui va peut-être se poser à propos du secret de confession.
Oui, secret de confession, c'est... Voilà, c'est...
Est-ce qu'on s'arrête là, peut-être, peut-être. Merci beaucoup, Olivier. Merci. D'habitude, on dit les complis, mais c'est peut-être très tard pour toi, donc peut-être tu veux rentrer sur l'entrée. On dit les complis à toute vitesse.
Ah oui, mais oui. Ça va.
On dit les complis ici.
Oui, on les dit où, les complis, à côté? Ici?
Ah, ici.
Allez, on les dit à côté, allez.
Il y a un sujet que j'ai jamais abordé quand même.